Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Le dialogue intermalien vu par des universitaires sur le thème du Grand Dialogue de ce soir. Le dialogue intermalien se poursuit au Centre international de conférences de Bamako. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la participation des universitaires à ce pourparlers impliqués. Au processus, depuis le début, ces enseignants du supérieur siègent au comité de pilotage ainsi que dans des commissions. Ils apportent leurs contributions dans le débat sur différentes thématiques. Quel regard portent ces universitaires sur ce dialogue intermalien? Peut-il permettre au Mali de retrouver la paix et de réconcilier les Maliens? Comment faire en sorte que ce dialogue ne soit pas des assises de plus? Le grand dialogue délocalisé au CICB pose le débat avec trois universitaires. Professeur Fana Tangara, directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Professeur Anna Traoré, recteur de l'Université de sciences sociales et de gestion de Bamako. Et professeur Adama Diamant Keïta, ancien recteur à la présentation. Je suis Mrana Kilomega, invité, auditeur, téléspectateur, vous qui nous suivez sur 3 télévisions et 85 radios partenaires. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, nous allons commencer avec vous, professeur Anna Traoré, recteur de l'Université de sciences sociales et de gestion de Bamako. Que pensez-vous de cette initiative Dialoguer entre Maliens?
Cette initiative, pour moi, quand même, c'est une très bonne initiative parce que le Mali vit une situation difficile depuis un certain temps déjà, plus de 10 ans. Et il y a eu beaucoup d'initiatives allant dans le sens d'amener la paix au Mali, l'entente entre les fils du Mali. Mais malheureusement, toutes ces tentatives ont échoué parce que on a constaté qu'au lieu qu'il y ait la paix, la situation n'a fait que s'aggraver et mettant la population malienne dans une situation très difficile sur tous les plans, économique, social, politique et tout. Donc, ce dialogue dont l'initiative vient des Maliens eux-mêmes et sans intermédiaire, donc je crois bien que c'est une très bonne initiative parce que ce sont les fils du pays même qui ont décidé de se parler et de trouver une solution à leurs problèmes.
Alors, quel regard portez-vous sur le déroulement du processus jusqu'à ce stade?
Bon, le déroulement, je crois que c'est bien. C'est bien d'ailleurs parce que tout le monde a été impliqué, à ma connaissance, puisqu'on a commencé depuis la phase communale, et ce qui permet à faire participer une grande majorité de la population se trouvant au niveau de leur localité, ensuite la phase régionale et la phase nationale. Donc, à cause de, je crois, l'inclusivité, je pense que c'est ce dialogue-là a été inclusif. Donc, à cause de cette inclusivité, je pense que le processus est bien.
D'accord. Pour professeur Anna Traoré, cette initiative est salutaire puisque elle est sans interférence extérieure. Professeur Diamant Keïta, Adama Diamant Keïta, quelle lecture faites-vous de cette initiative?
Oui, merci Monsieur Maïga. Comme l'a dit ma prédécesseur, Madame le recteur, c'est une initiative heureuse que si ce dialogue n'existait pas, il fallait l'inventer. Parce que c'est une phase d'appropriation de tout le processus qui vont nous conduire à la paix. Et ça, son particularisme du fait que c'est depuis la base et jusqu'au niveau national. Alors, la particularité est la participation des universitaires. L'enseignement supérieur du numéro général, le directeur général est là. Depuis le 19, nous avions été commis à entamé par des conférences, une série de 3 conférences, 2 à Bamako et 1 à Ségou. Et sous sa direction, nous avons fait la phase régionale. Parce que c'est la première fois que l'université soit conviée et le statut de région a été donné à tout l'enseignement supérieur pour se prononcer sur la question.
Pour tous les processus passés, c'est la première fois que des universitaires soient impliqués?
Officiellement.
Officiellement.
Oui. À titre institutionnel.
D'accord. Professeur Tangara, vous, quelle lecture faites-vous de ces assises?
Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer autour de ce sujet. Il est clair que chaque Malien va avoir une bonne lecture, une bonne impression de ce processus. Le Mali est connu comme étant un pays de dialogue, un pays où la cohésion a dépassé, l'écho de la cohésion a dépassé les frontières d'antan. Et que nous soyons dans cette période de grandes difficultés, on parle de crise multidimensionnelle, depuis des décennies, qu'on ne puisse pas se mettre à table entre Maliens, échanger autour des causes de cette crise et de parler, de faire des propositions de solutions. Je pense que c'est quelque chose qu'il fallait. Et l'ingéniosité des Maliens a permis à ce que nous soyons là autour de la table pour échanger entre nous Maliens et faire en sorte qu'il puisse y avoir des résolutions que nous souhaitons être vraiment la solution aux crises que nous traversons.
D'accord. Alors, que pensez-vous des thématiques abordées au cours de ce processus?
Oui, les thématiques ont été bien choisies parce que chaque thème touche quelque part soit aux causes des conflits ou bien peut être utilisé pour la résolution de la crise. Cinq thèmes ont été proposés, mais au-delà des cinq thèmes, il a été donné la possibilité à chaque Malien de s'exprimer, de faire des propositions, déjà au niveau des causes, qu'on puisse évoquer d'autres causes qui ne sont pas liées directement aux thématiques proposées, mais aussi proposer des solutions venant d'autres sources, indépendamment des thématiques proposées.
Qui seront prises en compte dans le document final?
Absolument. Déjà, les propositions qui ont été faites en dehors de ces cinq thèmes, au niveau des différentes commissions de centralisation, ils ont travaillé sur ce sixième thème qui a été intitulé « Autre », où on pouvait tout dire, essayer d'analyser la relation que ces propositions peuvent avoir avec les autres les thématiques. Mais au-delà de ça, des propositions qui sont spécifiquement liées à des régions ou à des corporations, que ces propositions puissent être éditées comme telles dans un document final et qui reste dans la mémoire de cet atelier. Donc, je pense que toutes les propositions qui sont sorties, non seulement des communes, des régions, de la diaspora, mais aussi de la nouvelle région qui est l'enseignement supérieur de façon générale, toutes ces propositions seront prises en compte pour la résolution définitive de la crise malienne.
D'accord. Anna, professeur Tangara disait tout à l'heure que au cours de ce processus, la liberté a été donnée à tous les participants de faire des propositions, des thématiques et des propositions de solutions. Est-ce à dire que les thématiques ont été insuffisantes ou trop nombreuses?
Non, pas du tout. Les thématiques n'étaient pas insuffisantes, mais une chose est claire, nous sommes des humains, on peut oublier certains aspects. Donc, si on a donné la latitude à chaque région et à la diaspora de dire si, par exemple, elle pense qu'il y a une préoccupation particulière concernant la région, qui n'est pas prise en compte dans les cinq thématiques, donc qu'elle peut bien faire cas de cette de ce cas. Donc elle peut le mettre dans une thématique sixième qu'on appelle le sixième thématique au niveau de l'université, et c'est tout simplement pour permettre aux gens de se prononcer librement et en dehors des cinq thématiques qui ont été proposées par le comité de pilotage. Donc c'est dans ce sens. Et effectivement, il y a certains aspects qui n'ont pas été pris en compte, effectivement, parce qu'au niveau de l'université, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'université que nous avons constatés, mais qui n'étaient pas expressément pris en compte au niveau des cinq thématiques. C'est pas parce qu'il y a un oubli ou bien une négligence, peut-être tout simplement le travail qu'ils ont eu à faire n'est pas allé jusqu'à ce niveau, parce que nous sommes dans le milieu, nous pouvons connaître certaines choses qui ne soient pas connues forcément par les gens externes à l'université.
Voilà. Les sujets proposés hors thématique, des cinq thématiques, qu'est-ce que disent ces sujets-là? Qu'est-ce que les gens disent concrètement?
Ah, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein? Beaucoup de choses, puisque les cinq thématiques, il y a le cas de la paix, la réconciliation. Les gens ont eu à faire des propositions, à discuter, à reconnaître que depuis 2010, par exemple...
Hors ces cinq thématiques, que disent les autres sujets que les gens ont abordés qui n'ont rien à voir avec les cinq thématiques?
Bon, je peux me prononcer par rapport à l'université, à l'enseignement supérieur, parce qu'il faut connaître pour les autres, il fallait quand même participer dès le début à tous les débats au niveau national, lors de la phase nationale. Alors que lors de la phase nationale, on a été répartis entre les groupes thématiques. Donc, je ne peux pas dire me prononcer par rapport aux autres régions,
mais pour l'université quand même. À quoi consistait alors le travail des universitaires dans ces pourparlers?
Bon, comme les autres régions, il s'agissait pour nous de nous prononcer par rapport aux cinq thématiques proposées. En dehors de ça, maintenant, si nous pensons qu'il y a des aspects qui ne sont pas pris en compte par ces cinq thématiques, nous pouvons les mettre dans une thématique particulière. Donc, nous avons travaillé comme les régions. Donc, notre rôle, c'était de réfléchir par rapport à ces cinq thématiques comme les régions, dans le but de trouver une solution définitive au problème malien, pour qu'il y ait la paix définitivement au Mali, comme toutes les régions. Donc, nous sommes venus comme région. Il n'y a pas de particularité qu'on nous a confiée par rapport aux autres régions.
Voilà. D'accord. Les universitaires, qu'est-ce qu'ils ont apporté concrètement à ces pourparlers d'aujourd'hui? Keïta.
Alors, mais comme ça a été dit, nous avons été considérés comme la 21e région. À ce titre, nous avons traité les cinq thématiques comme les autres.
Différemment?
Pas différemment. Bien sûr, le contenu peut être différent parce que les approches ne sont pas les mêmes. Les gens ne sont pas au même niveau de compréhension des problèmes. C'est ainsi qu'au niveau, par exemple, de la géopolitique, les universitaires ont fait des propositions concrètes pour formaliser des formations en ressources humaines à ce niveau-là. Parce que c'est une nouvelle science, une nouvelle compétence dont le monde a besoin aujourd'hui. La géopolitique, la géostratégie. Maintenant, thématique 6 qu'on a mis autre, chacun a parlé des particularités, des problèmes qui l'assaignent. Et moi, j'étais dans la thématique qui a parlé sur les questions sécuritaires et défense territoriale. À ce niveau, j'ai constaté la préoccupation des gens qui sont venus de l'intérieur, chacun plaidant pour sa chapelle au niveau régional. Alors, c'est ainsi que des préoccupations diverses ont été abordées, telles que la sécurisation des routes. Parce que pour se déplacer d'un point à un autre, il y a beaucoup d'insécurités qui ont été signalées. Les populations ont souhaité que ces axes soient sécurisés. Alors, il y en a qui ont parlé d'autres choses. Et nous-mêmes, au niveau de l'université, on a parlé des semences, en fait. Parce que les semences constituent une menace pour demain. Le contrôle des semences agricoles. Alors, nous nous sommes prononcés sur la nécessité de mettre en place, avec le monde rural, les spécialistes, les ingénieurs, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie et le ministère du Commerce à mettre en place une structure qui va s'occuper des semences, parce que c'est la guerre de demain. Si on ne vous vend pas de semences, la paysannerie peut ne pas cultiver. Et c'est un moyen de mettre à genoux un pays sans tirer un coup de feu. Parce qu'actuellement, les semences ne sont pas reproductives. Si vous achetez cette année, l'année prochaine, vous devez encore acheter. Alors, les tensions internationales, les conflits qui se projettent aujourd'hui constituent des menaces qui pèsent sur la paysannerie si les pays ne réfléchissent pas rapidement à ces aspects. Donc voilà un peu de particularisme.
Sur la réforme voilà. Du secteur de l'université ?
Donc, non. Vous sur avez... la participation de l'université...
Non, je demande sur la réforme du secteur de l'université. Vous avez eu à faire des propositions ?
Tout à fait. Sur la réforme de l'université, nous avons parlé de la relecture des textes qui gèrent les universités. Et parce que ces textes qui ont été pris datent de 2011, je crois. Il y a eu des insuffisances qui ont été constatées. Alors, cela a été aussi signalé. En termes d'infrastructure aussi, les problèmes ont été signalés. Les équipements, les laboratoires, la formation des ressources humaines, la sécurité, tant sur les campus que nos domaines. Donc, tous ces aspects ont été traités par les universitaires de façon spécifique dans le... dans la rubrique autre, qui est la thématique 6.
D'accord. Professeur Tangara, au regard de tout ce qui avait été évoqué au cours des travaux de groupe, que pensez-vous, qu'attendez-vous du moins du dialogue intermalien?
J'aimerais d'abord revenir sur votre précédente question.
Oui.
Par rapport au rôle...
Des universitaires, dans le travail des universitaires.
Je pense que l'approche universitaire, comme ça a été dit, ne peut pas être la même chose que comme les autres. Dans de tels dialogues, les débats, du moins, les gens sont amenés à dire tout ce qui les passe par la tête, y compris ce qui se dit dans la rue. L'universitaire ne peut pas se limiter à cela. Il est obligé de faire une analyse scientifique de ce qui s'est dit, présenter du concret, du réalisable. Parce que ce qui doit faire la différence entre ce dialogue et d'autres dialogues, c'est que nous sommes pratiquement dos au mur et nous cherchons à sortir. Il ne s'agit pas de faire des propositions qui doivent rester dans les tiroirs. Et si nous ne voulons pas que les propositions restent dans les tiroirs, il faudrait que ce soit des propositions réalisables. Si quelqu'un dit il faut demander au président de la République, le président de la transition, de faire descendre la Lune, bon, c'est ce qu'il souhaite. Mais comment faire descendre la Lune? Donc, beaucoup de choses peuvent être dites. Mais comment est-ce que nous pouvons les réaliser? Et les propositions venant de l'enseignement supérieur de façon générale, nous avons insisté sur ces faits. Il faudrait que les propositions qui sont faites puissent être des propositions réalisables. Donc, ça, c'est la particularité du monde universitaire. Maintenant, si vous pouvez reprendre votre question.
Voilà, je disais que qu'attendez-vous de ce dialogue intermalien?
Alors, nous attendons beaucoup de choses de ce dialogue. Je l'ai dit, nous sommes dos au mur. Nous n'avons pas le choix. Nous devons faire la paix. Et si nous devons faire la paix, il faut trouver les moyens de faire la paix. Vous ne trouverez pas un seul Malien qui veut que la crise continue. C'est vrai, on peut ne pas se comprendre dans l'approche pour aller vers la paix, mais tout le monde veut la paix. Donc, si tout le monde veut la paix, il faudrait qu'on puisse échanger. C'est vrai, nous devons parler de nos différends. Qu'est-ce qui a amené la discorde entre nous, mais aussi voir dans quelle mesure nous pouvons dépasser cela pour aller vers la paix. Et si tout cela est dit, je pense que on doit avoir un mécanisme pour aller vers la réalisation. Très souvent, après de telles rencontres, on parle de comité de suivi. Mais quelle réflexion est menée au niveau de ce comité pour la réalisation? Qui doit réaliser? De façon générale, si on ne fait pas attention, on risque de se retrouver avec des résolutions, contenant du moins des points qui sont en voie de réalisation. Les différentes structures vont continuer à exercer leurs activités, à exécuter la part qui sont déjà dans le processus normal de réalisation, mais il peut y avoir des points essentiels qui restent sans pouvoir être exécutés parce que ce n'est confié à personne. Parce que les recommandations vont, chaque département ministériel va essayer de voir les recommandations qui concernent son département pour aller vers la réalisation. Mais s'il y a une réalisation qui n'est directement liée à un département, qui va réaliser? Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles il doit y avoir la possibilité de continuer les réflexions et pour mettre en place des mécanismes d'aller vers la réalisation de telles propositions.
D'accord.
Au-delà de ça, nous, en tant qu'universitaires, on aimerait pouvoir continuer les réflexions, parce que ça, c'est le rôle aussi de l'université. Notre dialogue intermalien ne va pas se limiter à cette semaine. Nous allons continuer à continuer les réflexions pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider l'État dans la réalisation des recommandations qui vont sortir de cet atelier. Voilà un peu le rôle de l'universitaire, de l'université, de l'enseignement supérieur, du chercheur, pour qu'on puisse vraiment sortir de cette crise multidimensionnelle.
D'accord. Alors, pensez-vous que ce dialogue a plus de sens, de chance que les autres processus de ramener la paix?
Je pense que si on n'avait pas espoir, on n'allait pas se mettre là-dedans. On n'a pas le choix. Pour moi, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut que ça réussisse. Il faut qu'on puisse sortir de cette situation. Les Maliens n'ont pas le choix. Et je pense que l'État va tout mettre en œuvre pour que les recommandations clés qui vont sortir de cet atelier, de ces dialogues intermaliens, puisse être mise en application. J'avoue que ça peut ne pas résoudre tous les problèmes. Il n'y a aucune rencontre de ce genre qui va être une baguette magique pour résoudre tous les problèmes du Mali. Mais je crois que c'est une ébauche, c'est un début, et on doit continuer à l'alimenter pour faire en sorte qu'on puisse sortir définitivement de cette crise.
D'accord. Ce dialogue doit réussir. On n'a pas le choix, dit professeur Tangara. Alors, vous, dans votre mot introductif, vous avez dit que ce processus est inclusif. En quoi ce processus est-il inclusif?
Bon, le processus est inclusif parce que la manière dont ça a été organisé, je pense bien que personne n'a été mis à côté, n'a été marginalisé. La preuve, on a commencé depuis au niveau des communes. Et quand on dit au niveau des communes, sur le plan administratif, quand on prend le découpage, la commune constitue la plus petite portion, je crois bien. Et on est monté. Donc c'est pour permettre à ceux qui sont très loin et parfois qui pense même qu'on n'a pas connaissance de leur existence. On est allé jusque vers ces gens pour leur demander leur avis. Et ensuite, on est monté. comme on vient de dire, l'université n'a jamais été impliquée comme institution à de telles choses. Ça a été fait. Donc, dans la salle, on a vu que toutes les institutions ont été aussi impliquées. Institutions sur le plan, le plan que nous connaissons aujourd'hui, moderne, et institutions traditionnelles. Donc, tout le monde a été impliqué. Et c'est ça l'inclusivité. Alors que très souvent, qu'est-ce qu'on voyait? Ce n'est pas une critique, mais très souvent, quand on parlait de dialogue, on voyait toujours les mêmes têtes, les hommes politiques, etc. Et si je peux même me permettre, je dirais tout était centré à Bamako. On voyait que les gens qu'on voyait à Bamako, peut-être avec quelques responsables régionaux. Donc l'inclusivité, je l'ai dit, c'est surtout à cause de cela. Donc, si vous me permettez aussi, je voudrais rebondir un peu par rapport à la réussite du dialogue.
Allez-y.
Donc, j'allais ajouter à ce que le professeur Tangara a dit. Et ce dialogue, non seulement pour les autres dialogues, il y avait, comme on l'a dit, ce sont les autres qui venaient avec les idées, les propositions, tout, tout, tout. Et qu'est-ce qu'on voyait très souvent, c'était des aspects politiques, aspects territoriaux, ethniques, partage de ressources, etc. Mais cette fois-ci, quand on prend les thématiques, il y a tous les aspects de la vie du Mali, tous les aspects. Et dans chaque thématique, on peut trouver des causes des problèmes que le Mali connaît aujourd'hui. On peut trouver des solutions possibles et on peut trouver la manière dont on peut rendre cette paix possible et de façon pérenne.
D'accord.
Donc, ce qui fait que on peut bien espérer, on peut bien dire que ce dialogue-là est vraiment différent des autres et peut nous amener vers la paix définitive.
Ce dialogue est différent un des autres. Quand on regarde l'absence des groupes armés qui ont pris des armes contre le pays, cette absence des groupes armés et des groupes extrémistes n'enlève rien à la qualité de débat, selon vous?
Ce n'est pas tous les groupes armés qui sont absents, à ce que je sache. Et si je comprends
des groupes
bien,
armés séparatistes qui ont pris des armes pour...
Oui, et si j'ai bien compris, on m'a bien dit qu'ils ont tous été invités aussi. Mais libre à eux de ne pas venir. Ça fait partie de la démocratie. Et en plus de ça, quand on dit dialogue, si certains pensent qu'ils doivent bénéficier d'un certain privilège pour pouvoir venir, parfois c'est pas facile à gérer. Sinon, je crois bien qu'ils pouvaient venir s'ils ne se reprochent pas certaines choses, et ils pouvaient venir. Mais pour moi, la majorité de la population malienne, à savoir une grande majorité de ceux qui avaient pris des armes contre leur pays, ceux qui n'ont jamais pris d'armes contre le pays, mais qui ont été victimes, ou qui sont très loin, qui n'ont pas été victimes, mais qui ne sont jamais, qui n'ont jamais été invités à de telles rencontres, donc ont participé. Donc, c'est pour moi l'essentiel. Et ceux qui ne sont pas là, je crois bien, s'ils reviennent à de meilleurs sentiments, à tout moment, ils peuvent venir. Parce que quand on dit dialogue, ce n'est pas pour un seul jour. On lui vient de dire l'université va continuer. Et quand il y a des propositions de solutions aussi, ben, on peut se repentir et revenir. Donc, il n'est pas dit qu'on doit forcément prendre part au débat pour pouvoir participer par la suite. On peut ne pas prendre part au débat, mais par la suite venir et bien participer par la suite. Voilà.
Donc, pour vous, ce dialogue est la voie vers la paix définitive au Mali?
J'espère bien. C'est mon souhait et j'ai bon espoir.
D'accord. Professeur Adama Diaman Keïta, un processus de dialogue sans les groupes armés et sans une partie des Maliens, notamment des hommes politiques exilés hors du Mali, est-ce que vous pensez que ce processus peut ramener vraiment la paix tant recherchée, la réconciliation des Maliens tant recherchée par les autorités elles-mêmes ?
Oui, avant de rebondir sur cette question, j'aimerais quand même faire un rappel encore sur le rôle de l'enseignement supérieur, pour sa spécificité encore sur la qualité des débats. La crise qu'on vit mérite un diagnostic des causes qui ont fait ça. Nous sommes arrivés quand même à identifier un certain nombre de problèmes qui ont occasionné cela. Vous prenez, il y a un cercle vicieux de problèmes. Le déficit actuel entre la population et l'élite qui nous gouverne ne date pas d'aujourd'hui. Et cela dénote de quoi ? On a fait un greffon de deux systèmes administratifs. Le système administratif traditionnel, ancestral, qui était là, retrouvant des grands empires que vous connaissez, nous avions une façon de vivre et de gouverner sur plus d'un millier d'années. Je ne vous apprends rien que l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana, l'Empire Songhai, tous étaient 10 fois plus grands que le Mali d'aujourd'hui. Ceux qui les ont gouvernés n'avaient ni voiture, ni avion, pas de téléphone, encore moins l'Internet ou le WhatsApp. Mais ils ont quand même fait de bonnes choses qui sont racontées dans les tariqs aujourd'hui. Donc, il suffit maintenant de susciter l'intérêt de l'élite pour retourner à ces fondamentaux-là et voir comment compléter avec du modèle. Mais on n'a pas fait ça. À l'indépendance, on a continué à occuper les mêmes bureaux, à prendre les mêmes textes, souvent en changeant seulement le nom du pays. Donc, on a fait une greffe. En termes médicaux, on a dit le greffe a été rejeté. Le greffon a été rejeté. Ce qui fait ces crises, pas seulement au Mali, mais dans tous les pays qui ont fait ces choix-là. Comparativement aux pays asiatiques où ces crises ne sont pas de nature redondante, nous n'avons pas fait l'effort intellectuel d'interroger sur nos valeurs. Qu'est-ce qui sied avec nos façons anciennes de faire et la façon moderne de gouverner? Donc on a fait piloter deux administrations parallèles. Il est temps maintenant de revenir à ses fondamentaux. L'université est arrivée à faire ce diagnostic-là. Et l'un des goulots d'étranglement, c'est la représentativité, le mode de représentation des populations. Vous n'êtes pas sans savoir que quand le multipartisme est né...
Au sein des prises de décision ?
Au sein même de la représentation des populations. Quand le multipartisme est né, on est aujourd'hui à plus de combien de partis ? Plus de 100 partis. Alors, ces partis concourent à des suffrages, élections présidentielles, élections législatives, élections communales. Mais tout le monde se retrouve au niveau de l'Assemblée. Et je ne vous apprends rien que pour être député, on fait des alliances à la base, que beaucoup ont qualifiées d'alliances contre nature. Des combinaisons à ne même pas imaginer au niveau du premier Mali. Une fois maintenant à l'Assemblée, chacun regagne son parti. Le peuple n'est pas dupe. Il a constaté cet impact négatif sur la morale, sur l'éthique. Et ensuite, quand vous analysez bien le fait partisan de cette représentation est aussi la source de tous nos problèmes. En ce sens que, quand un président est élu, il a la majorité à l'Assemblée sur le fait partisan. C'est de cette majorité que le Premier ministre est choisi, que la plupart des ministres sont choisis, y compris des partis satellites qui ont concouru pour simplement des postes de ministre ou des postes de directeur. Chacun fait une grande coalition autour de là où la direction du vent a tourné. Donc, en résumé, il est avec une majorité parlementaire qui est censée le juger, évaluer son action et censurer ses lois ou avaliser ses lois. Mais vous constatez que dans tous nos pays, ces assemblées sont des caisses de résonance du parti et du pouvoir. Au moindre escarmouche seulement, tout tombe comme château de cartes. Donc nous avons fait ce diagnostic qu'il faut réfléchir autrement. Qu'est-ce qu'on faisait avant? Il y avait ce qu'on appelle la représentation par choix des autorités, des circonscriptions, qu'on appelle la SGD. Toutes les contrées choisissaient leurs représentants au niveau qui venait au niveau de l'Empire. Et c'est ainsi que le terme de la Ségédé est né. Nous pouvons revenir à cela en faisant en sorte que toutes les circonscriptions puissent choisir leurs représentants, qu'on appelle cette fois-ci la Ségédé. En dehors du fait partisan, ce n'est pas la politique qui va les amener, ce n'est pas chose, ils seront là au compte et au choix des circonscriptions électorales, basé sur l'intégrité, la probité, la morale et la compétence. Quand on a lancé ce défi-là maintenant aux autorités de légitimité traditionnelle, aux circonscriptions, chacun fera en sorte qu'il soit représenté dignement. Mais ce qui se fait actuellement, c'est une liste. Vous êtes là-dessus, moi je suis là-dessus, Y est là-dessus. Si la tête de liste est bonne seulement, les autres peuvent être mauvais. Alors donc, on prend tous les autres parce qu'il n'y a pas de choix exclusif.
D'accord.
Donc, ce mode-là de représentation, nous avons dit qu'il faut remettre en cause. C'est une œuvre de longue haleine, même si ce n'est pas présentement. L'université a posé déjà les jalons. Nous allons continuer la réflexion là-dessus pour que les autorités traditionnelles puissent se retrouver dans la gouvernance. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que partout aujourd'hui, il y a un rejet du fait politique. Faites un sondage, vous êtes journaliste, allez-y, sondez un peu les gens. Tout le monde dit, nous sommes déçus. Voilà la cause pourquoi on est déçus, parce que le mode de représentation est un mode calqué sur ce qui se passe ailleurs. Et même ce qui se passe ailleurs, ce mode de représentation connaît des crises, parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Jamais l'Assemblée ne va contrôler ou ne va censurer un gouvernement qui est issu de lui. Il y a un conflit d'intérêts. Donc, il faut arriver à dissocier les deux. Parce que le rôle essentiel de l'Assemblée, c'est voter des lois, contrôler l'action gouvernementale. Comment vous voulez avoir quelqu'un qui est issu de voix pour vous contrôler? En Bambara, on dit qu'il y a quelqu'un qui est Bambara Bala Kita. Et c'est pour cela, quand l'institution présidentielle chute, tout chute avec lui. Parce que ce sont ses racines qui l'entourent. On n'a pas pris soin de planter d'autres piliers ailleurs qui soutiennent le pouvoir. Alors, donc, cette nouvelle présentation qu'on a proposée, si elle voit le jour, va être un autre pilier pour soutenir l'institution. Ben, dans les pires de cas, on ne le soutient pas. Si l'institution présidentielle chute, l'autre poteau ne va pas chuter. Donc, les cas seront limités.
D'accord. Voilà. Alors, comment vous voyez l'avenir de ce processus de dialogue sans la participation de ces groupes armés qui ont pris les armes contre le pays et des politiciens qui sont exilés?
Pour revenir à votre question, je crois que ça a été abordé. Le président, le premier ministre Ousmane Issoufou, qui dirige encore ce comité de pilotage, est un homme averti, un homme de grande expérience, qui a dit qu'il y aura une approche doctrinale envers ces gens qui ont pris les armes pensant qu'ils ont raison sur le plan religieux. Donc, je ne présage rien de ce qui va sortir dans les résolutions finales. Mais j'ai entendu dire, comme certains l'ont entendu, vos journalistes l'ont entendu dire dans la salle, que cette approche va être faite. Donc personne n'est exclu, y compris ces gens-là. Alors, il faut extraire de la main de l'hydre nos enfants qui les ont égarés, qui les ont regagnés par nécessité. Ça, tout le monde n'est pas terroriste parce qu'il le veut. Il y en a qui sont partis parce qu'il y avait la nécessité, une question de survie. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Ceux-là doivent être venus.
D'accord.
Maintenant, pour les partis politiques, je pense que l'invitation a été lancée à tous les partis politiques. On a énuméré plus de combien d'invitations personnellement signées de la main du ministre de l'administration territoriale, envoyées aux partis politiques.
Alors, les partis suspendu.
Les partis politiques sont là. Non, les partis politiques sont là. Vous allez voir, je ne veux pas citer de nom ici, mais il y a des éminents membres des partis politiques qui sont dans nos groupes thématiques. Je ne vais pas citer de nom ici, ils sont là.
D'accord.
Maintenant, ceux qui sont exilés, la porte n'est pas toujours fermée. Et combien de gens se sont exilés, ensuite ils sont venus. Donc cela n'enlève en rien leur qualité de Malien. Quelque chose qui vous est reproché, je pense que si vous venez, vous faites face à ça... D'emblée, je pense que c'est résolu. C'est des Maliens, voilà, au même titre que les autres.
D'accord. Professeur Tangara, doit-on craindre pour ce processus intermalien?
Je n'ai pas bien compris la question.
Doit-on craindre pour ce processus intermalien? Existe-t-il des signaux de méfiance?
Non, je pense qu'on ne doit pas craindre. Je l'ai déjà dit, c'est un processus. Et un processus a un début, mais ça doit continuer. Il y a l'après-dialogue, l'après-atelier phase nationale. Comme il y a eu l'après-phase communale, phase régionale, il y a l'après-phase nationale. Et les recommandations qui sortiront de cet atelier vont être soumises aux autorités. Et c'est aux autorités de mettre un mécanisme en œuvre pour la réalisation des différentes recommandations. Vous avez venu de poser la question par rapport à ceux qui, entre griffes, ne sont pas parmi nous au cours de cet atelier. Au-delà d'eux, il y a beaucoup qui ne sont pas avec nous, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'être choisis. Parce qu'un atelier, on ne peut pas amener tout le monde. L'atelier communal, même si on descendait au niveau des villages, lors de la réunion, on ne va pas, tout le monde ne pourra pas être là pour parler. On choisit toujours des représentants pour parler au nom de certaines personnes. Toutes les communautés, je dis bien toutes les communautés au niveau du Mali, ont participé à ces dialogues. Elle l'a dit. Et en ce qui concerne des éléments qui souhaitent prendre une distance avec les autorités, bon, nous en avons parlé au cours des débats et un mécanisme doit être mis en place pour voir, pour faire de telle sorte que demain, chaque Malien puisse revenir à la paix. D'accord. Je le dis souvent, quand nous prenons, si nous prenons les différents groupes armés, chaque fois qu'il y a un combat, c'est un Malien qui meurt. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les groupes rebelles, que ce soit au niveau de ce que nous appelons terroristes ou djihadistes, que ce soit les villageois, que ce soit les administrateurs qui sont tués ou enlevés, ils sont tous des Maliens. Comment est-ce que nous pouvons faire pour que tout ceci puisse être épargné?
D'accord. On me fait signe qu'il nous reste juste quelques minutes à partager, d'accord, ensemble. Comment alors construire un nouveau pacte national en faisant fi des anciens pactes signés entre les différents régimes et les groupes rebelles?
Je pense que ce dialogue, c'est le début de ce processus. Je l'ai dit, je le répète, le dialogue ne se limite pas à cet atelier. Après l'atelier, dans les recommandations, on verra comment mettre en place les différentes recommandations qui ont été formulées. Et je pense que dans ces recommandations, il y a ce processus de mettre en place un pacte national ou en tout cas un processus qui va faire en sorte que chaque Malien puisse se sentir concerné par la paix et puisse se donner à la paix, puisse contribuer à la réalisation de la paix.
D'accord. Madame Anna Traoré, en quoi ce dialogue, comment satisfaire les attentes des Maliens par rapport à ce dialogue intermalien?
La satisfaction des attentes des Maliens, ça passe par d'abord que chacun soit ouvert, que chacun soit sincère, que chacun s'identifie, se reconnaît et se reconnaisse dans ce dialogue-là, les recommandations, et qu'on puisse effectivement mettre en œuvre ces recommandations et les suivre leur mise en œuvre et les résultats qui sont obtenus si ça va dans le sens des attentes. Et s'il y a lieu de corriger, de rectifier, de le faire.
D'accord. Donc, malheureusement, on me fait signe que nous n'avons plus de temps. Okay. Nous allons devoir rendre l'antenne à nos radios partenaires et télévisions partenaires. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur le dialogue intermalien vu par des universitaires. Et nous étions avec trois universitaires, à savoir professeur Fana Tangara, directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeur Anna Traoré, recteur de l'université de sciences sociales et de gestion de Bamako, professeur Adama Diaman Ankeita, ancien recteur. Ce débat a été réalisé par Mariam Koulibaly et à la modération Imrana Kilomaya. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat en direct de CICB.